la famille Feta Bea, pour parler de la famille Adams, se rétrécit. Donc ce sera un trio de gars, un trio d'hommes qui est là, donc trois hommes, six couilles pour cet épisode.
Tu sais, on en avait parlé.
Trois hommes, cinq couilles pour cet épisode. Désolé, Kevin. In a world.
No, in a world, Jack.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Bea, le podcast qui se fait des films à partir des bonnes annonces. Et ce, je vous le demande, les gars,
sans aucune objectivité.
Oui, bravo. Pour ce 28e épisode, place à la famille Adams, une famille que nous connaissons bien car elle nous a suivis, on va dire, tout au long de nos jeunes années. Et aujourd'hui, elle revient en force dans un film d'animation qui a l'air des plus cyniques. C'est cette Bea dont on va parler aujourd'hui ensemble, en trio de gars. Hein. Donc, trois gars, cinq couilles, comme on dit. Désolé.
Arrêtez de vous moquer, c'est un handicap de naissance.
Pardon, excusez-moi.
On est vraiment désolé pour toi, Kevin, mais t'inquiète pas, hein, ça n'empêche pas de vivre une vie correcte.
Bien sûr,
oui. Tout ça. Donc, avec moi, autour de la table aujourd'hui, certains membres de la famille Adams qui n'ont pas été crédité au générique. Laissez-moi vous les présenter. Ambiance. Clément est là avec nous aujourd'hui. Salut Clément.
Bonjour, je suis lundi et je vais mal. Quand on me demande comment je vais, je réponds comme un lundi. Bon, allez, je retourne torturer un écureuil.
Grosse ambiance. Kevin est là aussi. Salut Kevin, qui es-tu toi de la famille
Salut.
Adams?
Moi, c'est jeudi. Ah. Je ne sers à rien. Je suis neurasthénique.
Et toi, qui es-tu, Romain?
Oh, moi, je suis dimanche. Je suis celui qui ne branle pas grand-chose.
Imagine, on fait tout le podcast comme ça. Alors... Ouais.
Sur un temps,
c'était vachement bien.
J'ai hâte de voir
une
ce
BA
film.
Qui me hype à fond.
Oui, moi aussi.
J'ai trop hâte.
Franchement, j'ai ri.
Non, allez, on retrouve nos vraies personnalités.
Oh my god.
Allez, c'est parti. Allez.
Oh là, on n'est pas bien là sans les femmes quand même.
Oh, attention à ce que tu dis, on a des colocataires. Donc.
Une minute de podcast, une première blague
sexiste. Comment tu m'as mis un petit poignard en plein cœur, Kevin. On a des colocataires, nous. Toi, t'es qu'une merde, n'oublie pas.
Moi, j'ai pas dit ça, c'est toi qui interprète après. Hein.
Pour le sommaire de l'émission, comme vous l'aurez compris, place à la famille Adams, la famille la plus noire, mais aussi la plus cool de tout.
La plus noire, non, il y a quand même la famille du prince de Bel-Air.
Oh. Et elle est tout aussi cool.
Elle est oui. Tout aussi cool.
Donc, mais... c'est la deuxième famille, la plus noire, mais la plus.
Peut-être
cool.
Moins cynique et moins morbide. Donc, c'est cette BA-là dont on va parler aujourd'hui. Et puis en seconde partie d'émission, place au grand, à l'unique Martin Scorsese qui nous a offert peut-être un de ses plus beaux films. Voilà, je lâche le spoil.
Ah oui, ça y est, on lâche le spoil. On le fait maintenant, le match retour. Allez, c'est parti.
Restez avec nous pour le match retour de The Irishman de Martin Scorsese qu'on a pu voir sur Netflix, les doigts de pied en éventail et le cul en amande.
Et en chou-fleur. Oui, mais c'est parce que c'est une seule soirée.
Bon, est-ce qu'on se lancerait pas la BA là tout de suite, les gars?
Allez, c'est parti.
Ça file tellement vite sans les femmes.
Oh, ah oui, bah,
on
bah,
se
oui.
Compte bah,
parce,
chose,
bah,
parce que ça parle moins.
Ouais. Oh, putain. On va se faire taper.
On vous embrasse,
non,
les
on vous
les
embrasse, nos femmes à nous.
C'est nos femmes. À nous.
Ah là là, on fait toutes les erreurs.
C'est nos femmes,
toutes
ça.
Toutes les erreurs, on les fait. C'est voilà. Parti.
Unhappy, darling?
Yes, completely. We hit something. Is he all right?
He seems perfectly demented.
Thank you, old boy.
What a lovely morning. Wake the children.
right, I'm awake.
What kind of topsy-turvy place is this?
So different.
Pugsley, don't drink it all. This gentleman wants some too.
Have a good day at school, dear.
Do your worst!
Ah, this is a children's prison. Who's that?
You shouldn't mess with me.
You don't want me?
I'm Parker.
My name is Lindsay.
You don't have a cell phone?
Well, you don't have a crossbow. And I thought everybody had one of those.
Lindsay! Great shot!
I'd love to just go crazy and shock my mom.
You happen to be talking to the queen of shock.
Think twice.
Flip the switch.
Get my creature! Oh my god, get them off me!
Totally awesome. Wednesday.
How dare you enter this house like that?
Parker claims it brings out my smile.
You don't have a smile.
But I have a lot of things you don't know about.
Parker! Who did this to you?
I did. This is my new look.
Those Adamses have gone too far this time.
These people are freaks!
No one torments my family but me.
This is my town!
Huxley, don't miss. Becoming most wonderfully disruptive. Good news, everybody. Pugsley's gone.
Wednesday, dig up your brother at once.
You're weakening the gene pool.
C'était bien.
C'était bien.
Ouais, j'ai kiffé.
Ça a l'air nul, j'ai envie d'y aller.
Ça m'a donné très envie, cette BA.
Ouais.
Je kiffe ma race.
Parlons tous comme mercredi, maintenant.
Le cinéma, c'est totalement dépassé.
Voilà, tu parles comme Godard, là, attention.
J'aime pas trop quand on parle
ton
comme ça.
Ton grand ami Kevin.
Ouais.
On a un autre grand ami justement qui fait partie de la famille.
Oula.
Cette transition.
Transition opportuniste.
Exactement. Je commence à devenir très fort dans les transitions opportunistes.
Ouais. Tu fais feu de tout bois.
Et en parlant de ce grand ami, vous savez de qui je parle là ? Je pense que vous le savez.
Bien sûr, Jean-Michel. Non.
On va tirer son meuble. On va tirer son écran. On va l'allumer.
Ah oui.
On va allumer son unité centrale et
ça
on va laisser place.
Ça prend un peu de temps parce qu'il tourne sous Windows.
On va laisser place à El Calculator, notre ordinateur qui nous a compté les plans de cette BA.
C'est moi, c'est moi. Bonjour les amis.
Salut.
Salut El Calculator.
Dans la famille Adams, il y a 111 plans en 2 minutes 36, soit 0,7 plans par seconde. À peine plus que la moyenne. Oh, il est déprimé, vous avez vu ?
Qu'est-ce qui lui arrive ?
Je suis déprimé pour être comme vous.
Tu t'adaptes.
Tu lui as mis une fonction d'imitation ?
Non, il a maintenant une intelligence artificielle qui apprend d'elle-même, un peu comme Google Translate.
Ouais, c'est un peu une bêtise artificielle dans son cas. Ta gueule !
Oh,
attention. Hein.
Calmez-vous, vous deux, Clément, avec calculateur, je sais
ouais,
que vous n'aimez pas
tension
tant que ça. Il y a une petite
nous.
Tension, il va falloir qu'on règle les problèmes. Là.
Avez-vous remarqué qu'il y a 111 plans dans la bande-annonce et que 111 x 6 égale 666 ? Les satanistes Illuminati dirigent le monde. Fou là, je le coupe parce qu'il est en train
de
devenir conspirationniste.
Eh ben, tu vois, comme quoi l'intelligence artificielle qui apprend d'elle-même,
En fait, je pense
c'est
qu'il,
dangereux.
Il traîne trop sur YouTube.
Ah là là là. Bon, bah voilà, on est sur une moyenne plutôt normale en fait,
normal,
ces derniers temps. Rien de surprenant.
Non.
On regarde des BA plutôt classiques.
Oui, bah, je crois qu'on est un peu rentré dans le mainstream.
Oui,
tout à fait.
06-07, c'est vraiment devenu la norme. Quoi.
Il faut dire quand même qu'à l'époque, dans l'âge d'or des bandes annonces, en 1972, nous étions plus à une moyenne de 1,2. Bon, effectivement, elle a baissé, comme la qualité des films.
Ah, t'as inventé un personnage de statisticien chiant.
On va appeler Jean-Charles.
J'allais dire Jean-Luc.
Jean-Charles, statisticien. Oui, bah, tu sais qu'aujourd'hui, 70% des hommes
s'appellent Jean-Charles.
Ont une couille au lieu de deux. Très bien.
Il y en a marre.
Faut le lâcher avec ça parce que tu vois,
après,
il va se sentir discriminé.
Pas vous voir à ma place.
Il va partir, on va se retrouver à faire le podcast à deux.
Y a aucun caleçon qui me va. Et bon merde.
T'as pas des problèmes d'équilibre quand tu marches ?
Mais si, mais il y a toujours un trou. Tu sais, il y a un trou d'air dans mon calbut à chaque fois et du coup ça me déséquilibre. Et si y a un coup de vent, je m'envole, frère.
Non, on va passer à la BA.
L'équilibre, c'est l'oreille interne, ça n'a rien à voir.
La BA, les gars, la BA, n'oublions pas ce pourquoi
oui.
on est là. Pour parler de cette bande-annonce, de ce film d'animation. Est-ce que vous savez qui a fait le film ? Première question avant qu'on commence la BA.
Ce sont les réalisateurs de Sausage Party.
Mais non ! Sérieux ?
Bah ouais.
Ah
bah
mais ça va être trop bien
ouais.
alors.
Et ouais, c'est quand même.
Et mercredi, elle a un peu une tête en forme de saucisse, on est d'accord ?
Tandis que Gomez, lui, il ressemble plus à un beignet.
Oui, c'est
on sait comment ça va finir du coup.
Conrad Vernon et Greg Tiernan, un peu de leur nom, qui ont réalisé ce film La Famille Addams. Donc on connaît un peu Conrad Vernon sans le connaître parce que c'est lui qui a réalisé Shrek 2.
Ah.
Il a pas mal travaillé pour DreamWorks, Shrek 2, Monstres contre Aliens, Madagascar 3.
Il a roulé sa bosse.
Voilà, et puis avec son copain Greg Tiernan qui lui a fait Sausage Party, puis il a fait d'autres trucs un peu plus pour enfants.
Vous irez voir, hein, on va pas tout vous faire non plus.
Donc voilà, bah, les deux, le duo s'est retrouvé sur Sausage Party, puis rempile pour La Famille Addams version animée. Donc on va vous dire ce qu'on en pense, mais on va d'abord dérouler cette BA.
Alors déroulons.
Sur quoi s'ouvre cette BA ?
Sur un accident de voiture.
Une voiture dans la nuit conduite
sur une route déserte
par une main.
Oui.
Oui,
la main,
c'est la chose. C'est la chose.
Oui,
c'est
la chose.
C'est la chose.
Voilà, on va présenter un peu les membres de la famille au fur et à mesure de la BA. Donc on a la chose, voilà, qui est conducteur, qui est un peu main à tout faire en fait.
Ouais, c'est un peu dangereux parce qu'elle n'a pas d'yeux. Hein, bon, moi je m'inquiète un peu pour la sécurité routière. Enfin, c'est un truc qui m'importe. J'ai perdu ma couille comme ça.
Avec les voitures modernes, ça détecte l'endormissement. Donc.
Ouais.
On est sur une première incohérence parce qu'elle n'a pas d'yeux, mais elle a aussi pas de pieds. Qui accélère ?
Et ça, c'est peut-être la chose 2.
Ou alors c'est une voiture aménagée.
La chose 2, c'est juste un pied. Donc la chose, oui, cette petite main que j'aimais beaucoup moi dans les films.
Mais oui, elle est trop drôle.
Dans les films d'antan de Barry Sonnenfeld là, dans les débuts 90, t'es génial, c'est un super personnage. Et à l'arrière, qui se situe ?
À l'opposé de l'avant du.
Sur les sièges arrière, Morticia et Gomez Addams, qui sont les parents de la famille Addams.
Et oui, qui ont l'air encore très amoureux. Hein.
Oui.
On sent la passion qui brûle entre eux.
Un amour à la vie, à la mort, mais surtout à la mort. On sent la passion, il lui demande si elle est très malheureuse. Elle dit oui.
Oui, et donc il est très content.
Alors, il faut comprendre que la famille Addams est très cynique. Hein. À partir de quand ils disent malheureuse, ça veut dire très heureux pour eux.
Oui,
quand ils disent très moche, c'est
valeurs,
très beau. C'est ça. Les valeurs de la famille Addams se sont inversées.
On explique aux gens qui sont un peu abrutis qui nous écoutent.
Mais non, pas abrutis, mais on a le droit de pas connaître.
On pense à vous.
On fait pas un petit stop sur le design de ces deux personnages là.
Alors c'est très comment dire, c'est très décontenançant au début, c'est même moche. Enfin moi je les ai trouvés même moches les personnages, surtout après quand on voit Mercredi. Mais en fait je pense que c'est un style et que tu t'y habitues comme certains dessins animés.
Bah, c'est un peu un style à la Cartoon Network, ça me fait penser un peu au style de Gendy Tarkakovsky, le mec qui bossait sur Dexter, les Super Nana, etc.
Samurai Jack,
ouais. Les trucs Nickelodeon un peu.
Mais c'est bien, moi j'aime bien. Voilà, comme tu dis Clément, c'est vrai qu'au début, quand on a découvert la bande-annonce, on était surpris par le design des personnages.
C'est pas réaliste, quoi. Voilà.
Mais je trouve que ça s'intègre bien dans le style du film et dans ce que ça vend. La main, elle conduit, mais c'est pas un super conducteur parce qu'elle va renverser quelqu'un.
Oui.
En fait, de manière très brusque. Hein.
On dirait un film Netflix, ça commence toujours comme ça.
Sur un renversage de mec.
Bah ouais, bah regarde tous les films d'horreur Netflix, produits Netflix, ça commence toujours dans une bagnole, ils renversent un truc.
Putain.
Ils ont vu Get Out, ils sont déviés, on fait pareil.
C'est vrai ça, Jean-Charles ? Jean-Charles, est-ce que c'est vrai ?
Effectivement. Depuis.
Ta gueule, Jean-Charles.
À peu près 5 ans. Effectivement.
Donc oui, ils vont renverser un scientifique.
Oh. Bah, oui.
Si, enfin, il est dans une blouse blanche au départ.
C'est déjà un zombie, non ? Enfin, Frankenstein.
C'est
en fait.
Une espèce de monstre de Frankenstein.
C'est ça. Et il dit un truc genre, il est déjà parfaitement.
Il a l'air parfaitement frappé.
Parfaitement frappé, ouais. Donc.
Voilà, et qui se transforme du coup en, on va dire, Igor. Moi, je l'appelle comme ça. Je me souviens plus comment il s'appelle dans la famille Addams. Je crois qu'il s'appelle Lurch. Je sais plus.
Lurch.
Un truc comme ça. Igor, en gros, qui va être le majordome de la famille Addams, qui va être. Un peu comme la main, la chose, l'homme à tout faire, quoi. Qui va porter les bagages, et c'est ce qu'il va faire tout de suite, il l'engage.
Comme quoi, tu vois, Macron avait raison, tu peux traverser la rue,
et trouver
te
un
faire
travail.
Renverser, et trouver un travail quand même.
Ouais, c'est vrai.
Faut être au bon endroit, au bon moment, quand même.
Faut tomber sur la bonne voiture, quoi.
Ils sont tombés sur la bonne voiture, transition sur un temps superbe, un temps exquis, elle nous dit Morticia. elle ouvre la fenêtre, tempête niveau 5.
Oh, il fait un temps superbe.
Quel temps magnifique, j'adore.
C'est le mois de novembre à Paris, quoi. Hein.
Je vais pouvoir parfaire ma blancheur aujourd'hui. Magnifique. Et on introduit du coup, oui, le joueur d'orgue, la maison.
La musique aussi.
Donc pareil, hein, la maison ultra designée qu'on retrouve, le manoir de la famille Addams, très creepy. Donc pour eux, hein, c'est vraiment 5 étoiles dans Maison Magazine.
Après, c'est creepy cosy quand même, il y a un côté confort, je trouve.
Oui, bah, c'est des bourgeois, hein.
Même
dans les premiers films et tout.
C'est des bourgeois, oui, et là, elle demande à ce qu'on réveille les enfants, et faites place aux enfants. Et on introduit donc du coup Mercredi qui dort sur un lit guillotine.
Oui.
N'est-ce pas une magnifique invention de sa part ? Car Mercredi est avant tout une personne très inventive.
Suicidaire aussi.
Qui cherche toujours soit à mourir, soit à tuer des gens.
Ouais, très
son petit frère.
très noir. Et puis on comprend au fur et à mesure de la bande-annonce que ça va être un peu son film, j'ai l'impression. On va le découvrir ensemble. Mais il y a son petit frère, comme tu disais, oui, Clément, qui s'appelle
Pugsley.
Pugsley, qui lui est un peu le...
Le perso Osef.
Ouais, c'est vrai, qui sert un peu à rien.
Il fait des bêtises, quoi. C'est pour, un peu pour les petits.
Qui sert un peu à rien. Ils se font réveiller par un sol cogneur.
Ah ouais. Oui, c'est vrai.
Ça, c'est génial comme réveil. Alors, fini le snooze. Il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de feinte. T'es réveillé, quoi. donc, l'arbre, il va directement les chercher dans leur chambre, dans leur lit. Et un réveil brutal. Et puis, ensuite, pour aller à l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans la bonne annonce, du coup?
Ben alors oui, c'est la première grosse interrogation, c'est qu'on dirait qu'elle est obligée d'aller à l'école pour la première fois de sa vie. Donc pourquoi ? Eh bien, je vous pose la question, pourquoi est-elle obligée d'aller à l'école selon vous ?
Écoute, moi j'ai l'impression que ça se passe quand même, c'est un peu le début de la famille Adams, c'est comme si c'était une nouvelle adaptation du début de l'histoire. Alors peut-être qu'ils viennent de s'installer dans leur nouveau manoir et qu'ils le kiffent de ouf, et que forcément il faut inscrire l'enfant dans l'école du quartier.
Mais pourquoi ils sont jamais allés à l'école avant, non ?
Bah, ils étaient peut-être dans une autre école. Je sais pas s'ils vont à l'école.
Parce que là, elle va dans une école normale, en gros, quoi, américaine, avec un campus et tout, quoi.
Ouais, bon, si on peut dire que c'est je crois que c'est une école un peu primaire quand même, non ?
C'est un collège, hein,
un collège.
Ouais. Ça a l'air d'être au collège. Avec,
oui,
donc voilà, ils débarquent. Ce qui contraste à ce moment-là, en fait, dans la bonne annonce, c'est ce qui est très drôle, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'ils débarquent dans une ville qui est
rose bonbon,
toute colorée, ouais, qui est toute colorée. Mais genre vraiment, on se croirait dans Sausage Party là, parce que tout est coloré. On a des couleurs flashy, vertes, jaunes, et puis eux, ils sont là,
noirs,
ténébreux, lugubres. Mais ils ont. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un kiff de la vie, en fait. peut-être parce qu'ils sont morts. Non,
ils sont pas morts.
Non, ils sont pas morts.
Ils sont pas morts, la meuf.
Non.
Moi, j'ai toujours cru qu'ils étaient morts.
Non, ils sont pas morts.
Je crois pas. Je crois juste qu'ils sont bizarres.
Ouais, ils sont chelous.
Après, on verra dans le film, peut-être qu'ils sont morts.
Ils sont bizarres, oui, ça c'est clair qu'ils sont bizarres, parce qu'il y a Bugsley qui se met à boire dans une gamelle de chien.
Parce qu'il en a jamais vu, je crois. Hein. Parce que sa mère lui dit, attends les ans pour le monsieur qui arrive.
On dirait que c'est la première fois qu'ils sortent de leur maison, quoi. Et je me demande qu'est-ce qui les oblige.
C'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être se faire un film par rapport à ça ?
C'est peut-être la crise des subprimes. Hein. Tu sais, aux États-Unis, ça a quand même viré plein de gens de chez eux. Et voilà, la famille Adams, c'est peut-être une victime de cette bulle spéculative.
Oui, ou peut-être que les services sociaux s'en sont mêlés.
C'est ça, ouais, je vois bien un truc comme ça.
Ce serait énorme.
Vous êtes obligé, sinon vous êtes expulsé de chez vous ou un truc du genre. Et
comment
du coup,
ça ? Vos enfants ne sont pas scolarisés ?
Mais alors ?
C'est honteux ! Et on a aussi l'oncle fétide là, qu'on voit se balader avec eux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet oncle fétide ? C'est quand même.
C'est un des personnages les plus drôles qui est joué. Attends, j'ai une connerie ou pas ? Qui est joué par le mec de Retour vers le futur, non ?
Christopher Lloyd.
Ce personnage, il est juste trop drôle, quoi. Bah, c'est l'oncle qu'on rêve tous d'avoir. Enfin, genre trop complice et tout, toujours prêt à faire des conneries avec toi. Et en même temps, totalement creepy, quoi.
Mais lui, il est mort, par contre, vraiment. Enfin, j'ai l'impression, non ? Mais il se prend des flèches.
Déjà, il lui tire une arbalète. C'est passé, ça, déjà ?
Non, mais on peut parler.
Elle lui tire un carreau d'arbalète dans la gueule et il fait « Hey, bien tiré !»
Ouais, c'est ça. Mais même dans les films, c'était ça.
Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que leur statut vivant-mort n'est pas clair.
J'avoue.
On peut enquêter.
Mais c'est pour ça que les services sociaux sont sur le coup.
Pourquoi vous êtes mort ? Vous avez rien à foutre là ?
Vous allez dans une école de vivants maintenant.
Vous touchez les APL, mais vous êtes mort. C'est quoi ce délire ?
Donc, ils envoient en fait, ça se passe en Corse. Oh.
Ils envoient mercredi, donc oui, qui débarque dans ce collège avec des gens qui, eux, ont l'air d'avoir une bonne dose de vitamine D, hein, contrairement à elle. Et elle fout le seum un peu à tout le monde. Quoi.
C'est la meuf... Comment dire ?
Bah c'est ça, c'est un peu le rôle de la petite gothique qui arrive
dans le
collège.
Le mouton noir, quoi, du troupeau, quoi.
Et design de Mercredi et Pugsley, on n'en a pas parlé non plus.
Ouais,
mais, c'est fidèle un peu au design de ses parents, mais Mercredi a, comment dire, un visage très allongé.
Ouais,
tout à fait. Un corps très allongé.
Vertical.
Ouais, et est-ce que vous avez remarqué à ce moment-là le design des couettes de Mercredi ?
Ah non, j'ai pas vu.
Elle se termine en nœud coulant, comme un truc de pendu, quoi.
Ah ouais, j'ai pas fait gaffe.
Donc c'est, voilà.
Ah, c'est drôle.
Elle met l'ambiance. Tandis que Pugsley, lui, est plus sur quelque chose de rond.
Ouais, mais c'est pareil avec les parents, parce que le père est un peu rond également, et la mère est pas, elle a pas autant une tête de saucisse que sa fille, mais elle est très longue, longiligne.
Et ce qui est drôle, c'est que pour le look du père, ils ont quand même gardé un peu la tête de Raoul Julia, qui était l'acteur des films, qui est un des acteurs que je kiffe le plus. Et je fais un petit clin d'œil à Johanna, parce qu'il est dans Street Fighter. Donc,
Il joue qui ?
Il joue M. Bison.
C'est mais Bison.
Bah oui, c'est Bison.
Raoul Julia. Génial.
Et cet acteur, il est toujours à fond, même dans des nanars, et c'est trop génial, quoi. Toujours impliqué. Il est génial dedans.
Mais c'est vrai qu'on se souvient de lui, surtout en tant que Gomez Adams. On l'embrasse, paix à ton âme.
Bisous.
Et qu'est-ce qui se passe dans cette école, justement ? Parce qu'elle va se faire.
Va rencontrer une amie.
Une amie dont j'ai oublié le nom.
Normale, entre guillemets, mais une amie normale qui a quand même des velléités de chaos, quoi.
Ouais.
et qui s'appelle Parker, ouais.
Voilà.
Et qu'elle invite du coup à la maison, et ils vont se balader sur cet arbre. Le sol cogneur, on va l'appeler comme ça, hein. C'est plus simple. Et du coup, bah, elle se lie d'amitié, quoi, ces deux gamines, alors qu'elles sont très différentes.
Elle lui dit, mais tu n'as pas de portable.
Enfin.
Tu n'as pas de compte Instagram. Qu'est-ce que
Instagram,
c'est que ça,
tu veux dire
Instagram, oui, dans le film, ça s'appelle Instagram.
Ça, c'est très marrant.
Et elle lui répond, oui, mais toi, tu n'as pas d'arbalète, donc tu ne vaux pas mieux que moi, quoi.
Donc, on retrouve un peu le schéma un peu classique des films de collège, où on va rencontrer quelqu'un et puis on va se faire influencer l'un et l'autre.
C'est ça.
Et ça va être le cas du coup parce qu'elle demande à Mercredi de l'aider un peu pour faire flipper sa mère. Mm. Et ça tombe bien parce que c'est son domaine, hein, Mercredi.
Oui, c'est ce qu'elle dit. Je suis une experte en pour faire flipper les gens.
Il se trouve que je suis né pour faire flipper.
Parce que sa mère, à l'autre, c'est une espèce de mère idéale américaine, blonde, avec la permanente et tout. Et voilà, tu sens que la fille, elle a envie de s'émanciper de cette famille parfaite.
Ouais, Desperate Housewives, un peu la famille de Parker. C'est un peu ça. On retrouvait ça dans un des films. Alors moi, je les confonds, les deux films. J'en ai deux souvenirs d'enfant. Il y a La Famille Adams et Les Valeurs de la Famille Adams, donc 91 et 93, hein, ils sont sortis. Mm. Réalisé par Barry Sonnenfeld, qui est le papa de Men in Black aussi, hein, juste pour faire une petite référence. Et je confonds un peu les deux, mais elle rencontre aussi une gamine dans un des films. Et je me demande si c'est pas, même pas Parker aussi. Je me demande si c'est pas une adaptation aussi, du coup.
Ça va peut-être plus être dans le 2, non ?
Parce que dans la série animée de La Famille Adams, il y avait ses voisins ultra chiants aussi qui étaient tout le temps là. Et qui avaient un enfant, mais qui était du coup le gars qui comprenait un peu La Famille Adams alors que les parents étaient complètement flippés. Quoi.
Mais là, c'est pareil puisque la mère dit « Bon, il y en a marre de cette famille maintenant » et elle appuie sur le bouton Instagram. Donc on va voir ce que ça déclenche dans le film. Mais ça a l'air de foutre le zbeul après dans la ville.
Ouais, bah ça commence déjà, le zbeul commence déjà par une expérience interdite faite par Mercredi.
Ah oui, c'est vrai.
Avec les grenouilles.
Les grenouilles zombies.
Voilà.
Bah là, on sent que c'est un cours de dissection anatomique comme on a tous eu la joie d'en connaître.
Ouais.
N'est-ce pas le foie de poulet ou je sais pas quoi.
Ah, moi j'étais un poussin.
Ah, moi j'ai fait une grenouille, mais c'était marrant parce que les grenouilles étaient. En fait, on avait que le bas de la grenouille parce que nous on devait disséquer juste la cuisse pour jouer avec le nerf sciatique.
Ah oui, donc t'as fait bouger la jambe
et
comme
en
ça.
En fait, les grenouilles étaient coupées de moitié et elles étaient plantées sur des bâtons de sucette. Enfin, c'était
mon
très
Dieu,
étrange.
On dirait un truc de La Famille Adams.
Ouais, c'était super étrange.
Typiquement le genre de truc que Bugsley.
C'est là que j'ai découvert la gastronomie française.
Bah, nous on avait des poussins.
Ah, mon Dieu, mais c'est horrible.
Les pauvres petits, c'est des bébés.
Et c'est ce qui est le plus horrible, c'était quand on quittait le cours. On les jetait tous à la poubelle à la fin.
Même pas tu les manges
pas.
Bon,
vous partez et vous jetez votre poussin en partant.
Mais putain.
Vous avez la poubelle qui était remplie de cadavres de poussins.
C'est du gâchis, tu fais des nuggets avec sa merde.
Oh, putain.
Oui, mais bon, ils avaient pris des coups de bistouri et
pas grave, les nuggets, tu crois que ça sort d'où ?
Mon Dieu. Et donc, elle les ramène à la vie, ces grenouilles.
Alors, moi, j'ai une question, je vous demande à ce moment-là, est-ce que ce serait pas, cette scène-là, ne serait pas peut-être ce qui va tout lancer dans le film, les zombies grenouilles ?
Alors, moi, je pense que c'est plus la mère qui appuie sur le bouton. Parce qu'après, on voit des images où toute la ville en veut à La Famille Adams et tout. Et après, je pense que les grenouilles, c'est une des péripéties qui va faire que dans le collège, elle va à la fois se faire des amis et en même temps être rejetée peut-être par le corps enseignant et tout ça. Mais je pense que la grosse péripétie, ça va être la mère qui va dire « Bon, maintenant, il y en a marre, il faut les expulser de cette ville. »
C'est interdit.
Je vois bien ça.
Pour la loi.
Oui, c'est interdit, surtout en hiver. On ne peut pas expulser les gens.
Oui, ça se fait pas.
Donc après cette expérience, effectivement, influence, hein, comme je disais, de l'un sur l'autre. Et là, petite influence de Parker sur Mercredi.
Oh, elle a une barrette licorne.
Oui, elle a une barrette en licorne.
Mais ça, c'est chaud. Hein.
Avec des paillettes.
Ah, la rebelle, quoi.
Et donc la mère, c'est trop drôle, l'interpelle, lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle lui dit « Ça va avec mon sourire, mais tu n'as pas de sourire. » Il y a quand même des bonnes punchlines.
Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi, maman.
Ouais. C'est l'ado, tu vois, l'ado mystérieuse.
Donc ouais, petite barrette licorne toute rose et coup de sang du coup de Morticia. Et là, elle me fait rire cette scène, j'ai hâte de la voir dans le film.
Ouais.
Avec les chauves-souris qui débarquent et qui viennent lui sucer le sang qu'elle n'a pas d'habitude.
Le sang pendant qu'elle parle, c'est trop drôle.
Donc qui entretenir sa blancheur, quoi. On sent que toutes les chauves-souris sont au service de cette famille aussi, dans ce grand manoir. Et comment oses-tu porter ça ? Elle lui demande, écoute, je fais ce que je veux. Elle s'émancipe aussi, hein. Ça y est, c'est la crise d'adolescence sur Mercredi. Là.
Et donc elle devient girly. Et...
Ouais, enfin, un peu. Parce que t'as quand même la transformation de Parker qui est un peu plus drastique, quoi.
Ouais.
Parker, elle est devenue totalement godpunk, c'est-à-dire qu'elle est habillée tout en noir avec du gros rimmel et puis elle s'est un peu rasé les cheveux à la nawak avec des petites mèches qui pendent comme ça. Mais elle est quand même toujours sur Instagram, j'ai l'impression, parce qu'elle est sur son téléphone à ce moment-là.
Ouais. Pure sosie de Pete Doherty à ce moment-là.
Je crois qu'elle est devenue Suicide Girl, elle a fait des nudes sur Insta et tout.
Et effectivement, la mère qui a un brushing à la Trump,
C'est vrai, c'est vrai, on dirait Trump en meuf.
C'est Trumpet.
c'est fou.
Et là, là va péter un câble. Comment ça ? Tu es devenu Pete Doherty ? Ça, c'est la
faute. Ça va pas ? Tu écoutes trop les libertines.
Cette famille Adams, t'as complètement ravi.
Et là, bim, elle déclenche la guerre.
Et ouais. Elle déclenche la guerre. Et suivi du panneau cette année, la famille Adams revient, blabla, etc. Elle appuie sur Instagram.
Et oui, et ça a pas l'air d'être comme l'appli qu'on a nous qui s'appelle non. Instagram, parce que là, il y a quand même un petit design agressif, je dirais.
Ouais. Ouais, et
avec des flammes, ouais.
Donc, meeting des voisins qui se réunissent, effectivement, et puis qui vont essayer de booter.
Ouais. Dans une scène qui rappelle un peu La Belle et la Bête. Je trouve. Quand ils arrivent au château avec des fourches et tout.
Ouais, j'allais dire les fourches et les flambeaux en moins, ouais. Oui, mais ouais, c'est ça.
Ils vont peut-être chanter.
Allons bouter les ennemis de notre quartier résidentiel américain.
Dans les deux cas, je
pense que c'est
un
film qui dénonce le racisme. C'est quand même des gens blancs qui veulent expulser une famille noire, comme tu le disais.
Oui,
noir dans l'âme.
Voilà. Oui, noir dans l'âme, mais noir quand même.
Là, mais oui, bah, bien sûr le film va être symbolique, je pense, de plein de choses qui se passent en Amérique.
Tout à fait.
Surtout si c'est les mecs de Sausage Party.
Et donc là, ouais, mais c'est même pas juste aller sonner chez les voisins et leur dire excusez-nous, est-ce que vous pourriez partir s'il vous plaît, c'est carrément catapulte. Les mecs ils y vont à la catapulte, hein. C'est ma ville, les voisins ils pètent un câble, ils commencent à balancer des énormes cailloux sur le manoir, il y a des explosions, c'est limite la guerre, on voit Gomez qui évite des détonations et tout plein de trucs. Ils y vont pas
avec le dos de la cuillère. Hein.
Avec le dos de la cuillère, mais exactement.
Ouais. Et il y a cette réplique de Mercredi qui dit « Personne ne torture ma famille à part moi ».
Elle est géniale cette Mercredi, on va en reparler après, mais c'est vrai que les personnages de cette famille sont délicieux. Et donc la famille Adams sera sur nos écrans le 4 décembre. Et on termine sur une petite scène comique, hein, comme il se fait souvent dans ce genre de film, dans ce genre de bande-annonce. Par contre, là, très très creepy, je trouve. On a Mercredi qui a des yeux tout mignons. Donc, vous savez, ce genre de dieu rempli.
À la chapeautée.
Petit ballon rouge à la ça. Et elle dit Pugsley est mort. Donc, tu dis, j'aime bien parce que ça vient contrebalancer. Tu vois. Et elle a un petit sourire, genre en mode enfin, j'ai réussi à tuer mon frère. Pendant ce temps-là.
Il y a un bras qui sort de la tombe.
Pendant ce temps-là, justement, Morticia lui dit va déterrer ton frère, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'elle fait, Morticia, avec son mari à ce moment-là? Et
bah, elle lui fait les ongles, non, je m'en veux plus.
C'est du BDSM, hein, je crois qu'ils sont en train de,
ah oui.
De kiffer.
Ah oui, sinon elle lui met sa tête dans un étau, ouais, c'est bon, ça
ah
revient.
Oui,
la tête
oui.
Dans un étau, il a l'air de kiffer sa race.
Ouais.
Il manque juste la petite combi latex et puis on y est. Hein. C'est bon, on y est. Et oui, ça termine sur la main de Pugsley qui sort de terre.
Et elle qui dit un truc du genre, on est en train de gâcher notre patrimoine génétique. En gros, si on devient gentil, on n'est plus la famille Adams. Quoi.
Je crois pas que c'est ça que ça veut dire, je crois juste que si on fait survivre... Merde, j'ai bavé. Si on survive le frère et qu'il se reproduit, bah, le patrimoine génétique de la famille.
Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais.
Bah, le frère, pour qu'il aille choper une meuf.
Attends, il est enfant.
Il va grandir hein, après.
Ouais, bon, il a l'air complètement teubé, ce gamin. Il est terrible, il sert à rien.
Il y a
ça,
plein de teubés qui baisent. Hein. C'est pour ça qu'il se multiplie, mon gars. Enfin, je sais pas si t'as remarqué. Enfin, bref.
Jean-Charles, est-ce
un
qu'il y a
un podcast social
Effectivement, oui.
Qui dénonce.
Le QI est en train de baisser de manière drastique, dû à la reproduction totalement.
Merci Jean-Charles.
Délétère des
Merci Jean-Charles. Va
Merci,
te mettre à côté des
calculateurs. Malheureusement, nous arrivons oui. Au terme de
Bonjour,
cette émission.
Bonjour, chère
machine. Et donc voilà, la BA se termine. Donc on n'a pas parlé de la bande son, mais qui a l'air fidèle. Hein.
Alors oui, il y a cet aspect-là morbide et tout ça. Et puis il y a un aspect un peu rap, hip-hop, qu'on retrouve à plusieurs moments, notamment quand elle arrive à l'école. Et il faut savoir que Migos a participé à la bande-annonce, ainsi que Snoop Dogg, parce que Snoop Dogg double un des personnages du film. Ne me demandez plus lequel, mais il fait une des voix du film. Et il a fait une chanson. Et il y a aussi un morceau de Christina Aguilera. Donc on va être un peu dans une version revisitée, on va dire.
Family, I go to war with my family. Ups and downs, wrong or right, that's family. They think that we crazy, they say that we crazy, can't handle it. My back on the wall, back, who I'ma call my family. We different, we stick out, wig out, bug out, pop out, hop out, ball out, show out.
No,
why you looking at me like it's something silly?
You should know it's not just me that you be rubbing.
Wrong way, so you better think twice. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. Ay, 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 ay. You might think that we are all loco. Ay, ay, ay.
Come on, my family.
But this family about to go global.
We blown up.
Damn. Ah bah ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs hip-hop et tout, ils ont l'air d'avoir remis un peu au goût du jour. C'est peut-être l'influence Sausage Party aussi à côté qui joue.
Mmh. Oui.
Et voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette BA? Est-ce qu'elle vous donne envie de voir le film, Clément?
Alors oui, moi ça me donne assez envie parce que déjà j'aime bien le projet, c'est-à-dire que moi j'étais assez fan de la série animée qui passait dans les années 90 quand j'étais enfant, et j'aimais bien aussi les films même si j'en ai pas un grand souvenir, et du coup je trouve qu'un film d'animation, bah, c'est complètement logique en fait pour cet univers-là, et comme c'est un peu, bon c'est Universal vous allez me dire, mais j'allais dire c'est indépendant, enfin en tout cas comme c'est ni DreamWorks ni Disney ou quoi, j'espère qu'il y aura un peu une liberté de ton, surtout si c'est les mecs de Sausage Party, et que ça va aller assez loin dans le trash et l'humour noir et tout ça, donc ouais, ça me donne assez envie. Après, la BA a un côté un peu racoleur pour les petites gamines, tu vois, voilà. Et je pense que le film est plus noir que ça, enfin je l'espère en tout cas, donc mais ouais, j'ai assez envie de voir.
Oui, j'espère aussi qu'il sera autant destiné aux enfants qu'aux ouais. adultes, et que vraiment que cet équilibre là soit bien respecté. Toi Kevin, ça te donne envie de voir ce film?
Bon, moi bof, moi je suis pas un gros fan de la famille Adams de base, j'ai vu le film quand j'étais petit, donc il y a longtemps, et bon j'ai pas un souvenir impérissable de la chose. Je regardais un peu la série animée aussi quand ça passait, je crois que ça passait sur Cartoon Network si je dis pas de bêtises.
Ouais, Canal Plus aussi.
Mais voilà, après la BA en elle-même, effectivement comme dit Clément, je trouve qu'il y a un côté un peu racoleur, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Après, c'est dans ce genre de BA où parfois on a des bonnes surprises, donc voilà, je m'attends, j'espère, à une bonne surprise.
Et toi Romain?
Non, moi je suis fan, j'aime beaucoup cette BA, elle m'a fait rire parce que je retrouve le cynisme de cette famille que j'adore, je trouve que c'est une invention géniale cette famille, de ce côté-là, cynique, noir, on rit de la mort, et en même temps ça reste coloré mais dans un... comment dire, dans une palette de couleurs très grise, mais ça a l'air d'être plutôt,
en couleur, ouais, ouais.
Ça a l'air d'être plutôt bien foutu. Pareil, j'aime beaucoup le fait que ce soit passé en animation, parce qu'ils auraient pu refaire un film et tout, mais je pense que ce serait peut-être été un peu casse-gueule, tu vois, ouais. aujourd'hui, de refaire un film La Famille Adams, en plus, trouver le casting. C'est un peu kitsch, et donc c'est nickel de le mettre en animation, et puis ça permet en plus, ce que nous montre la bande-annonce, d'explorer des terrains un peu cartoonesques qu'on aurait pu difficilement avoir avec un film. Ouais, non, bien botté par cette BA, et hâte de découvrir ce que nous ont préparé les Sausage Party Dads, si je peux dire.
J'espère
ça comme
que ça ira aussi loin, parce que Sausage Party, c'était quand même un des films d'animation les plus trash.
Ouais, c'était aussi parce années. Que c'était écrit par Seth Rogen. Donc
oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Je pense pas que ça atteindra le côté trash.
ça finira pas en partout, je pense.
Sausage Party, mais on aura peut-être du trash morbide, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, La Famille Adams, quand même. C'est une grande, une belle invention, née en 64, cette famille, mais non pas directement en film,
non.
C'était avant tout.
Ça vient d'un auteur de comics américain qui s'appelle Charles Adams, donc qui a décidé de nommer ses personnages d'après son propre nom de famille, qui est né en 1912 et qui a publié plus de 1300 cartoons dans un journal qui s'appelle le New Yorker. Et c'est ces personnages qui ont été adaptés en série télé en 64. Ensuite, il y a eu les deux films de Barry Sonnenfeld, dont c'était le premier film d'ailleurs, le premier La Famille Adams.
Ah,
ouais. Avant, il était chef-op et après, il a fait Men in Black, ça, donc il a eu du succès. La série d'animation en 92, et donc là ce film, mais qui est en fait en projet depuis 2010, puisque c'était Tim Burton qui était rattaché au départ.
Oh,
ouais, et bon, changement de studio, donc changement de réel, et donc voilà, c'est oui, c'est une série qui remonte assez loin,
c'est fou,
assez
hein,
emblématique.
C'est très très vieux, quoi. C'est peut-être même plus vieux que certains de nos parents. C'est quelque chose qui perdure, quoi. La Famille Adams, c'est intemporel, enfin, j'ai l'impression.
Ouais, voilà, et donc avec ce même cynisme, cet humour noir et tout, ça a eu pas mal de succès parce que c'était très nouveau pour l'époque, et ça reste quand même aujourd'hui novateur en fait. Tu vois pas tous les jours un dessin animé d'animation qui parle de ces sujets-là, la mort, ouais, le côté macabre et tout, et enfin, moi je trouve que c'est assez nécessaire à l'époque dans laquelle on est. Et ça raconte un truc de l'Amérique aussi, l'obsession de la mort, de la fin du monde qu'on a, surtout en ce moment. Et je pense que ça va aborder pas mal de sujets actuels.
J'espère que tu as raison.
Ouais, je vois bien ça. Et à noter que c'est déjà sorti aux States en octobre et que ça a été un énorme succès critique et box-office et qu'il y a déjà une suite prévue pour octobre 2021.
Ouais, je vois là sur Allociné, ouais. ils ont déjà mis un panneau La Famille Adams 2.
Ouais, donc c'est déjà... ça y est, c'est déjà
il y a déjà des critiques.
Il y a déjà des notes.
Et après, je sais pas si vous voulez qu'on parle un peu du casting aussi, vocal.
Oui, bien sûr.
Il y a du lourd quand même. Il y a Oscar Isaac, Charlize Theron, Finn Wolfhard qui fait le gamin dans Stranger Things et dans ça, Snoop Dogg. Et il y a Romain, ton actrice préférée.
Qui, Mélanie Laurent.
CGM. Chloé Grace Moretz.
Oh non.
Le retour.
C'est elle qui fait mercredi.
C'est elle qui fait mercredi.
Oh god damn it. Je vais peut-être aller le voir en VF. Non.
Ah non, parce qu'en VF, il y a Kev Adams. Ouais.
Non, mais CGM, le problème, c'est les expressions faciales. Donc t'en auras pas là. Ça.
Ouais, à part s'ils ont fait de la motion capture.
Elle a pas l'air d'en avoir beaucoup non plus mercredi.
Mais c'est pour un rôle pour elle.
Ah, mais voilà, ouais, gros casting vocal quand même. Mm-hmm.
La Famille Adams, tout simplement, c'est le titre de ce film que nous allons voir.
Mais bon, c'est pas ouf comme
c'est
titre.
C'est pas dingo, hein.
Ouais, c'est nul.
C'est le titre, le nom de la famille, quoi.
Bah ouais, on s'en fiche, quoi. Ouais.
On se trouve un meilleur titre.
Allez, d'accord.
Allez, on ouvre la rubrique Faites un titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le Fais ton titre, notre rubrique qui permet de renommer le film de la semaine. Aujourd'hui, La Famille Adams va passer à travers nos esprits embrumés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais...
Ouais, morbide.
Et va en sortir un nouveau titre.
Wow.
Qui a potassé sur la question ?
Moi, j'ai un titre.
Vas-y, bah allez, vas-y, lance le truc.
On est trois, tu sais, donc en même temps. alors moi, j'ai un titre, c'est « Mercredi, jour de sortie ». Pourquoi ? Parce que mercredi c'est le nom de l'héroïne et qu'on dirait que c'est la première fois qu'elle va quitter la maison et aller dans une nouvelle école. Et c'est aussi le jour où sortent les films. Voilà.
Attends, c'est pas mal, c'est recherché.
Mercredi, jour de sortie.
C'est frais, ça se mange sans fin.
Merci.
Toi, Kevin, t'as un titre ?
Ouais, mais il est nul.
C'est quoi ?
C'était notre pelle famille. Parce que pelle, tu enterres les gens.
C'est pas mal, j'aime bien.
Okay. C'est un peu un titre de jeudi.
C'est un titre de jeudi. Et vous les filles, vous en pensez quoi ? Où sont les femmes ? La tristesse de ce podcast.
Et toi Romain, est-ce que t'as un titre dans la rubrique Fais ton titre ?
Moi je vous avoue que j'ai pas trop cherché un titre. Je me suis fait embarquer par la folie de ce week-end.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Une folie douce.
Mais non, j'avais une idée comme ça en tête.
C'est quoi ?
Qui parlerait peut-être un peu aux rappeurs. Je vous rappelais ça, la famille Adams.
Dumps,
serre pas la main, me fais-moi un vie.
Voilà.
Mais c'est ridicule en fait, ça n'a aucun rapport avec rien.
Par rapport pas dans le film.
Ou j'aurais appelé ça sinon Adam's Party, mais histoire de faire un rapport avec Sausage Party, mais bon c'est.
Ou des Dumps.
Quoi?
Ou des Dumps.
Waouh. Ça marche pas. Une autre référence de rappeur, si vous l'avez, je suis désolé.
C'est double référence rappeur.
Et eh ben rappelons ça, mercredi, jour de sortie, ouais, j'aime bien.
Ok. Et avec punchline,
je sais pas, avec un retour dans notre pelle famille. On peut mettre un truc comme ça.
Le retour de la pelle famille.
Le retour de la pelle famille.
Ok. Ouais,
mercredi, jour de sortie, le retour de la pelle famille. Voilà notre nouveau titre pour La Famille Adams. On en a eu des mieux, quoi.
Il y en a eu des mieux, mais
non,
bon.
Faut pas dire ça. Même quand c'est médiocre, il faut pas.
On fait ce qu'on peut. Hein. Si vous avez des idées de titres, mettez-les en commentaire avec 5 étoiles aussi.
Et partagez.
Hein et PTG.
Et partagez. Enfin, voilà, c'est le film que nous, on va aller se voir dès le 4 décembre pour entamer ce mois de fête.
De toute façon, on peut pas y aller après, il y a les grèves.
Ah oui.
C'est vrai. Oui, donc il faudrait y aller vraiment le 4.
Ouais, on n'a pas de chance.
Parce que le 5, le monde s'arrête.
Oui.
Enfin, on retourne au VHS du mercredi d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà.
Mais y a, comme le film il n'est pas sorti en VHS vu qu'il est au cinéma, bah, on est un peu dans le.
Ah ouais.
Voilà.
Bon. Y a toujours la Fnac du métro.
Ou alors, faut aller le filmer le 4 avec un caméscope à cassette. Tu fais une VHS. Non.
Ça devient beaucoup trop compliqué. Et le match retour, bah, du coup, bah, on le fera peut-être avec les femmes cette fois-ci.
Ouais, ce serait bien.
On le fera par Skype, parce qu'on ne pourra pas se voir.
C'est vrai.
Ah oui, on ne pourra pas prendre le train.
Et en parlant de match retour, les cocos.
Ouais.
Ouais. Hein, est-ce qu'on n'ouvrirait pas la page, le match retour de la semaine avec The Irishman,
Boom.
Martin Scorsese.
J'ai entendu dire que vous peignez des maisons.
C'est parti.
DJ, keep that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Vous avez vu comment on enchaîne?
Ouais,
on est déjà au match retour, quoi.
Ah, et quel épisode de qualité supérieure.
On sent vraiment que les femmes ne sont pas là, quoi. Ah, ah, j'ai envie de lâcher le pantalon.
Et par contre, il y a personne qui nous amène des bières, c'est un peu chiant.
On peut appeler, Neil. Bisous, Nilou.
Qui se souvient de Neil?
Oui, c'est pour les fans des débuts de l'émission.
Si vous avez écouté l'épisode 1, 3 et 5,
il était là.
Il y avait Neil.
Il était là.
On pense à toi, Neil.
Non, on pense à lui. Match retour de The Irishman de Martin Scorsese, sorti directement sur Netflix ce 27 novembre, qu'on a vu, hein, du coup, chacun à notre manière.
Hein, ouais, chacun, en salle, hein, d'ailleurs. Chacun, non, je rigole.
Chacun avec
dans une salle, en tout cas, mais pas de cinéma. Oui.
Chacun avec notre télé. Pour se rappeler un peu l'histoire qu'on s'était imaginé à partir de sa BA dans notre épisode précédent, on s'était pas vraiment imaginé une histoire plus que ça, étant donné que le film est tiré de faits réels.
Ouais. C'était surtout qui est le fils de qui, combien il a d'enfants.
On s'était surtout interrogé sur le sens de la scène de fin de BA.
C'est vrai.
Donc la scène de la voiture.
Voilà, la scène de la voiture, très tendue dans la BA. On va tout de suite en parler pour savoir ce que ça donnait dans le film. Mais avant,
et donc
tout...
on va spoiler.
Oui, bah oui,
bah oui, spoil.
Clairement, en 3h30, on va être obligé de spoiler pour parler d'un film aussi long et aussi grandiose que celui-là. Qui, du coup, avant qu'on passe à nos avis, avant qu'on décortique un peu le film ensemble, qui s'amuse à résumer la vraie histoire de la vraie réalité?
Vas-y, je le fais si tu veux.
Kevin.
Vas-y.
Kevin, ça fait longtemps.
Bah écoute,
juste pour contrebalancer, j'ai l'esprit contradictoire. Ouais.
En plus, bah, c'est pas très facile à résumer parce que c'est quand même un film assez vaste.
Ouais, c'est dense. Ouais.
En gros, c'est le retour sur la vie de Frank Sheeran, qui de routier, qui transportait notamment de la viande dans ses camions et qui commençait à voler un peu de la marchandise pour en refiler un peu en plus au black à des gens qui faisaient partie, et il l'apprendra plus tard, de la mafia. Finit par rendre de plus en plus de services du coup à ces mafieux italiens et à être amené à bosser avec Jimmy Hoffa, donc un syndicaliste d'une société de transport, donc j'ai oublié le nom, ça y est, ça m'est sorti de la tête.
Teamsters.
Teamsters, exactement,
syndicat, ouais.
Et qui devient son garde du corps, étant donné que Hoffa avait des accointances avec la mafia, notamment. Et donc voilà, le parcours mafieux et amical de Sheeran et Hoffa pendant la fin des années 70, si je dis pas de bêtises.
Voilà, oui, sous fond de politique.
Sous fond de politique.
De Kennedy.
De magouille. Enfin voilà, une espèce de grosse fresque américaine, en fait. Donc c'est assez difficile de tout résumer jusqu'à l'événement fatidique et encore aujourd'hui mystérieux de la mort de Jimmy Hoffa, qui, dans le film, Scorsese a décidé de donner justement une solution, c'est-à-dire que Frank tue son ami, spoiler, mais ça n'a pas été prouvé du tout à l'heure d'aujourd'hui.
Ça reste encore un mystère, oui, voilà. Effectivement.
Et je le résumerai comme ça, mais c'est très dur de...
C'est dur de résumer, on est sur plus de 30 ans de,
C'est, ouais.
De visite, donc,
c'est
de
la
de
petite histoire qui rejoint la grande, quoi, vraiment.
Ouais, tout à fait.
C'est, voilà, on est sur un film fresque, je crois que c'est le mot, on peut dire ça, un énorme film fresque.
Exactement.
Sur le temps, sur la mort, sur tout plein de choses. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, on va ouvrir la rubrique Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille nous permet de savoir si la BA que nous avons visionnée la semaine dernière et analysée, nous avons dû quelque chose... fidèle en fait à l'entièreté du film de 3h30. Donc une BA de 2 minutes 30 pour un film de 3h30, il a fallu condenser quand même beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça a donné du coup selon vous? Douille ou pas douille, Kevin, sur...
Bah écoute, pas douille je dirais, parce que moi je m'attendais avec la BA justement à un film, comme je disais dans l'épisode d'avant, qui réunit un peu le Scorsese d'avant et le Scorsese d'aujourd'hui. C'est tout à fait le cas, en fait, je trouve. Notamment parce que c'est comme Silence, un film que je trouve très funèbre, en fait. C'est un film sur le regret, sur l'approche de la mort, et sur la foi aussi, mine de rien. Donc ouais, non, pas douille. Et puis après, pour la qualité du film, je pense qu'on en parlera pendant nos avis.
Clément, douille ou pas douille ?
Non, pas douille non plus. J'avais deux petites craintes, c'est-à-dire que les effets de rajeunissement numérique et puis le fait que ça soit trop classique. Et en fait, ces craintes se sont envolées assez rapidement. Étant donné la force du film, en fait, techniquement, c'est pas impeccable au niveau du rajeunissement. Il y a quelques plans qui font un peu tâche et tout. Mais en fait, on est tellement emporté par l'histoire qu'au bout d'un moment, on oublie que les acteurs sont rajeunis. Donc, c'est que quelque part, ça marche. Et sur le classicisme, ben non, parce que c'est ce que je pensais. Il fait des allers-retours entre futur, passé, plusieurs époques, et c'est complètement fluide, on s'y perd jamais, et donc ça évite d'avoir vraiment le biopic classique avec un grand B, pas B de classique mais de biopic. Et donc voilà, mes craintes se sont envolées. Par contre, j'attendais beaucoup la photo et ça m'a un poil déçu, donc juste ce point-là.
Et toi Romain, douille ou pas douille ?
Alors, comment vous dire, j'ai envie de dire douille, mais bonne douille.
Wow.
C'était une bonne douille, quoi.
Douille positive.
J'ai apprécié cette douille. Non, dans le sens où la BA nous perdait un peu. D'ailleurs, c'était comme ça. Nous, on s'est un peu perdu à essayer de savoir, à essayer de démêler des questions, de trouver des réponses à des trucs. En fait, on s'en battait les couilles, quoi. Mais non, surtout sur la temporalité. Parce que la BA, elle s'ouvrait, en fait, sur une scène de fin de film, donc qui arrive vraiment, vraiment à la fin. Sur Frank Sheeran qui est très vieux et qui se fait encore interroger par le FBI pour savoir qui a fait quoi, où est-il, qui est où est Ofa et tout, etc. Et donc non, très bonne douille positive parce que la BA nous perd et le film, on s'y retrouve très facilement. Alors oui, après ça peut être compliqué dit comme ça parce qu'il y a des flashbacks. Dans les flashbacks, on remonte le temps, un coup on est vieux, un coup on est jeune. Et en fait non, pareil, la petite crainte des VFX mais qui au final... je les ai trouvés nickel, quoi. Donc non, belle douille positive dans le sens où la BA va nous faire poser des questions et va nous donner envie de voir le film. Et le film est simplement passionnant.
Magistral.
C'est, voilà, je vais lâcher le mot, c'est un chef-d'œuvre.
Absolument.
Clairement. Enfin, pour commencer un peu les avis, pour ma part, je trouve que c'est sans doute l'un des films les plus forts, les plus sincères, les plus honnêtes... quand il disait Requiem, tu sais, dans les
ouais,
panneaux,
le Requiem mafieux,
on
ouais.
s'y retrouve, quoi. Parce que Requiem mafieux, ce film-là, The Irishman, est sans doute dans la lancée gangster de ces films-là de Scorsese. Je trouve que c'est peut-être le meilleur.
C'est ouais, en tout cas, le film somme, je pense.
De la maturité,
tout,
ouais,
en fait.
C'est ça.
Ouais.
Tu te rends compte que l'expérience de Scorsese se retrouve dans ce film, mais pour tout, pour toutes les valeurs qui font que son cinéma est son cinéma, sur le jeu des caméras, sur les transitions, sur le montage, sur la voix off qui est là pour te raconter, sur ces briscards que sont les mafieux et qui sont une image iconique dans le film de Scorsese qu'on retrouve là en plus, comment dire, avec un fond politique, syndicaliste, ce qu'on trouvait pas vraiment dans des films comme Les Affranchis ou autres où on était vraiment centré sur la mafia. Là, je trouve qu'il y a un équilibre qui s'opère dans ce film. Les 3h30, elles sont passées nickel. C'est grandiose. C'est superbement mis en musique comme il a l'habitude de faire dans ses films avec une bande originale, une soundtrack complètement triée sur le volet et qui nous embarque à travers ce road trip, hein, parce que c'est un road trip non seulement du point de vue de Joe Pesci et de Niro, parce qu'on les voit vieux, ouais. Eux aller à un mariage, c'est un peu ce qui ouvre le film, je crois. On les voit partir à un mariage avec, ils sont déjà très vieux à ce moment-là, avec leurs femmes qui font des post-clubs tout le temps. Et en fait... c'est comme ils voyageaient à travers le film parce qu'on retrouve ces scènes de road trip dispersées sur les 3h30 de film. Et le road trip aussi, je dis road trip parce que c'est un vrai voyage à travers l'histoire de l'Amérique, à travers l'histoire des États-Unis. Je trouve que contextuellement parlant, la reconstitution est nickel. On ne s'y perd absolument pas. C'est un plaisir de voyager dans ce film. Enfin voilà, j'ai vraiment gros gros coup de cœur. Mon seul énorme regret, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. C'est tout. Quel chef-d'œuvre incroyable. Bravo Scorsese, merci pour tout, c'était génial. Et juste pour terminer, excusez-moi, je m'étends un peu. Le trio Pacino, De Niro. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a les parrains là, les parrains, ouais. Ils sont là. C'est vraiment Pacino dans un Scorsese, ça coulait de sens et peut-être que ça valait le coup d'attendre parce qu'il est fantastique. Pesci,
il est incroyable.
On a l'impression qu'il a tellement de facilité à jouer, c'est dingue. Et puis De Niro, quand tu veux, gars. Quand tu veux.
Comme pour un baby foot ?
Non, pour du sexe story.
Ah, du sexe, d'accord. Pour
pas sûr qu'il est encore là.
Pour le sexe.
Incroyable, okay. Incroyable. Ils sont trop forts. Voilà. ce que j'avais à dire. Et vous?
Yes.
Bah écoute, moi...
On est unanime, je pense. Hein,
alors, bah oui, oui et non. Enfin, dans mon cas. Moi, je trouve que c'est un grand film, vraiment. Quoi. C'est, là où je suis pas d'accord, c'est pour le mot chef-d'œuvre, en fait. Mais après, c'est parce que c'est très personnel. C'est que je considère qu'on utilise beaucoup de chefs-d'œuvre et que pour moi, un réalisateur ou un artiste n'a qu'un chef-d'œuvre. Et, que,
oh, ah,
et qu'on décidera ça.
À débat, il y a débat. Mais oui.
Après, c'est subjectif, mais je pense qu'un réal en a qu'un.
Ah ouais, masterpiece, quoi.
Qui a, ouais. Une, ouais, qui a sa masterpiece, et qu'une fois qu'on aura tous les films de Scorsese et que malheureusement il nous quittera, on pourra peut-être savoir. Parce que moi je considère qu'à l'heure actuelle, son chef-d'œuvre pour l'instant, c'est Les Affranchis. C'est pour ça que je considère que, voilà, que le The Irishman n'est pas son chef-d'œuvre, mais ça reste un film énorme, quoi. C'est un film somme. Ça, pour le coup, je pense qu'on peut le dire, c'est un film somme. C'est comme un, ouais, film conclusif de son chapitre mafieux, en fait. Et c'est juste magnifique. Je vais pas revenir sur ce que t'as dit, parce que c'est de la redite sur les acteurs qui sont fabuleux, sur la reconstitution qui est géniale, et mais j'ai envie de faire quand même un point sur la mise en scène qui est juste, tu te prends des claques tout le temps, quoi.
Une vraie leçon.
T'as des plans séquences de dingue qui sont totalement ouf, mais qui sont faits avec simplicité, c'est-à-dire que c'est pas regarde, je te fais un plan séquence, tu vas être époustouflé, c'est juste que c'est fait avec vraiment subtilité. Et quand le plan se termine, tu t'es rendu compte que t'as vu un plan séquence, en fait, et tu dis waouh, ouais, quand même, c'est ça cool, quoi. Et non, mais et puis te tenir comme ça sur 3h30 avec des passages très contemplatifs, très lents, parfois sans musique du tout, sans son, mais c'est comme si vous voulez mettre, tu sais, l'ambiance Irish, Italo, enfin ouais, la mafia, pour après partir dans le funèbre, ce qu'il faisait avec Silence, c'est-à-dire, et maintenant je vous montre ce qu'il y a. Je vous montre les humains, en fait, je vous montre les émotions, et les émotions, dans la vie, il n'y a pas de musique derrière, donc on l'enlève, et là, le film devient extrêmement fort, quoi. Franchement,
notamment la fameuse séquence où il n'y a pas de musique.
Ouais, tout à fait, et il y a des moments, j'ai pensé, bon, c'est pas à la même échelle, mais des moments, ça m'a fait penser à Breaking Bad, je ne sais pas pourquoi.
Oui, moi aussi,
mais il y a des moments qui m'ont fait penser vraiment à Breaking Bad.
C'est étrange, hein, mais
ce côté arrêt dans le temps, tu les observes, et d'ailleurs, à propos de ça, je sais pas si vous avez... Non, je crois que vous l'avez pas vu encore, mais après le film, quand vous le regardez sur Netflix, il y a une discussion entre Scorsese, Pacino et De Niro.
4 hommes, 8 couilles, ouais.
C'est le titre du document.
7 couilles. Non, parce que De Niro est, comme moi, atteint d'une pathologie.
On est désolé.
pour l'aspect contemplatif, pardon, Scorsese disait à un moment, ce que j'ai voulu faire, c'était un film sur le souvenir, et je vous dis que le film est le rythme de que compte tes pensées quand tu repenses à ta vie, et c'est ce qu'il a dit, et je trouve que c'est vrai, en fait.
Ah oui, 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 ça fait sens de ouf.
Et voilà, donc je vous invite à regarder cette conversation qui est un peu trop courte, je crois c'est une petite demi-heure, mais vraiment fascinant. En plus, Pacino revient sur le fait que c'est la première fois qu'il bosse avec Scorsese, et tout, donc c'est super intéressant. Donc voilà, un grand film, très très dommage de pas le voir au cinéma, parce que là tu vas te prendre une vraie claque. C'est sûr que sur la télé, bah c'est bien, mais bon, t'as pas le t'es pas happé par l'écran. Bah,
le spectacle est un peu moindre, on va dire, mais ça n'en fait pas que c'est un grand film. Clément, toi, t'en as pensé quoi?
Oui, bah je vais pas m'étendre sur tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Moi, ce qui m'a vraiment soufflé, c'est le dernier quart du film, si on peut le découper. Bon, on y va, on spoil. Quand il est vieux et que toutes les affaires mafieuses sont conclues, en gros, en fait, le film devrait s'arrêter et on a 20 minutes ou une demi-heure de j'ai trouvé ça crépusculaire, vraiment, c'est De Niro qui décrépit petit à petit, enfin, son personnage.
J'ai les poils quand
et
tu en parles.
Ouais, au début, donc, bon, il va faire un séjour en prison, après il a une canne, après il a deux cannes, après il est en fauteuil roulant, après il est grabataire, et en fait, c'est ce qu'il n'y avait pas dans ses précédents films mafieux à Scorsese, c'est que là, tout d'un coup, on a le déclin. Mais pas le déclin dans sa carrière, le déclin dans sa vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la fin, on a un vieil homme qui fait juste pitié et qui se confesse auprès d'un prêtre et t'as envie de lui faire un câlin et tout, alors qu'il faut dire ce qui est, ce mec qui est quand même une grosse ordure.
Et qui n'a plus que les regrets, justement, ouais, comme compagnon.
Et qui est habité par les regrets, qui ne peut pas dire ce qu'il a fait, vraiment. Il n'y a pas la confession jusqu'à la fin du film, même quand on pense qu'elle va arriver, elle n'arrive pas, et c'est très beau d'ailleurs. Et moi, c'est ça qui m'a le plus bouleversé dans le film, parce que sinon, on a un parcours assez classique de mafia avec ce truc de syndicat qui est un peu nouveau.
Plus 5 mafiosos.
Ouais, voilà. Mais là, ce moment-là, je trouve, ajoute une dimension funèbre qu'il n'y avait pas avant dans ces films, et ça finit sur ça, et tu fais waouh! Ok, là, alors je sais pas, chef d'œuvre, mais c'est un très grand film déjà par l'ampleur historique, parce que oui, ça retrace aussi l'histoire de l'Amérique. On se rend compte que ces mecs-là se sont retrouvés au milieu de l'histoire des États-Unis. En fait, ça parle de Kennedy. Après, il y a le Watergate. Tu comprends qu'il a participé, je sais pas si c'est vrai, mais à livrer les armes pour la bataille de la baie des cochons à Cuba. Enfin, c'est incroyable. Ce mec a une vie centrale dans l'Amérique en étant un gros enfoiré, quoi, au final.
Ouais, ils ont écrit l'histoire, en fait.
Ils ont écrit l'histoire, ouais.
Ils étaient en coulisses et ils tiraient les
ficelles. C'est même sous-entendu que la mafia a fait tuer Kennedy, quoi.
Oui, et mais...
Il a fait élire aussi, apparemment.
Il l'a fait élire et il l'a fait tuer, ouais.
Pour revenir sur cette phase, notamment, on va dire, c'est le dernier tiers, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le premier tiers étant plus la rencontre Joe Pesci, De Niro, donc voilà, où il va commencer à faire des trucs de mafieux et plus en plus baigner dans des bails sombres. La deuxième, c'est vraiment la rencontre Jimmy Hoffa, ouais. De Niro, qui en plus la relation qu'ils installent entre Al Pacino et De Niro,
fraternel,
ouais, et c'est déchirant de savoir que ben il va être condamné à mettre fin à cette fraternité. Et le troisième pour moi, c'est vraiment le dernier bout du road trip avec les regrets, parce qu'on ouvre ce pan psychologique qu'on n'a pas retrouvé dans les autres films de gangsters de Scorsese, où on était vraiment juste centré sur l'action. Là, on ouvre le cerveau, on dissèque que l'après-crime, quoi. L'après,
comment tu vis avec ce que tu as fait,
voilà, la vieillesse, le parcours avec ça, les regrets qu'on a.
Qu'est-ce que tu as refilé à tes gosses aussi?
Sa fille jouée, ouais, par Anna Paquin, qui n'a pas beaucoup de dialogue dans le film, je crois qu'elle a deux lignes de dialogue.
Mais
qui a un rôle central. Car on la voit dès petite avoir un regard sur son père en mode tu vas me perdre. Tu vas me perdre et tu perdras tout. Et quand il passe et quand il fait le dernier crime le plus horrible, c'est-à-dire tuer Jimmy Hoffa, enfin, selon Scorsese, on rappelle que on n'est pas sûr.
Très dramatiquement, il tue son meilleur ami. Quoi. Ouais.
On a un regard de Anna Paquin à ce moment-là quand elle le comprend, parce que à travers les infos à la télé, Jimmy Hoffa est mort, il y a De Niro qui est devant, qui est impassible et qui cache tout, sauf qu'elle a décrypté son père. Et elle a un rôle centrale, elle est ultra importante. Alors oui, je sais que ça a fait polémique ces derniers temps, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans ce film, que la femme n'est pas mise en avant et tout, mais...
Ouais, mais ça c'est expliqué dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il parle avec son autre fille, la blonde, et elle lui dit « Mais en fait, papa, tu sais rien de notre vie. Tu sais pas comment on a vécu. » Et là, en fait, tu te rends compte que toi, tu as vécu tout le film du point de vue de De Niro et qu'effectivement, dans sa vie, en fait, sa famille, elle était absente. Et donc, en fait, pour moi, c'est un parti pris de mise en scène. C'est pas sexiste ou quoi. C'est qu'on suit la vie de De Niro de son point de vue, enfin, de son personnage. Et donc, du coup, sa famille est absente parce que pour lui, sa famille, c'était la mafia, quoi.
Et puis même, la mafia, c'est un monde d'hommes. Mais d'ailleurs, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Clément, sur l'aspect funèbre. Je viens d'y repenser. Il y a un truc que je trouve génial dans le film, c'est qu'il te déconstruit la figure du mafieux direct. C'est-à-dire que, alors que dans Les Affranchis, par exemple, même Scorsese, en général, il avait tendance à montrer les mafieux comme des figures un peu mythiques, donc avec quand même du panache et tout. Là, dès que tu vois un mafieux qui apparaît à l'écran, tu vois, va être tué.
C'est vrai,
va être tué de 4 balles dans les têtes, telle date.
Raconte
tout
un peu le procédé.
À chaque fois que tu as un nouveau mafieux ou une figure importante qui apparaît, hors Pesci et De Niro, ça commence avec Kettel, je crois.
Oui.
Ouais, je crois que c'est Kettel le premier où tu as le panneau. Et à chaque fois qu'il le voit, donc tu as un arrêt sur image, panneau. Il va être tué
3 balles dans la tête.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a de l'humour quand même dans le film. C'est qu'il y a un moment où ça fait un arrêt sur image et tu dis, ah bon, lui aussi il va mourir. Et il y a écrit, non, lui il est mort de mort naturelle. Tu fais, ah ok,
aimé de tous,
et il est mort de mort naturelle. Tu vois, c'est trop. Et il y a plein de moments qui sont assez marrants.
C'est vrai qu'il y a des petits moments comiques en plus où.
Quand il dit qu'ils s'appellent tous Tony.
Voilà, c'est ça, il s'amuse un peu avec les codes du mafieux et c'est subtil, mais c'est.
Il joue avec le racisme anti-italien qu'il y avait aussi à l'époque.
C'est super bien foutu. Mais vraiment cette fable psychologique, c'est ça qui m'a fait penser à Breaking Bad à ce moment-là. C'est le moment où il break bad dans le film. Il y a ce moment-là où c'est fini, quoi. Le point de non-retour, il est passé.
Ouais. Et même toi, en tant que spectateur, c'est là où tu le lâches, quoi. Tu fais non, là je peux pas accepter qu'il fasse ça et puis qu'il ait même pas trop de remords sur le coup.
C'est compliqué. Franchement, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tu sens qu'il y a Bah après ça c'est vraiment dans la dramaturgie, ouais. C'est, t'as un côté, s'il fallait que quelqu'un le tue, il fallait que ça soit lui,
ouais.
Parce que c'est con, ouais, mais... et c'est un espèce de code mafieux de te tuer c'est aussi te respecter,
ouais,
tu
mais
vois.
Le fait qu'il ait pas l'honnêteté de lui dire à Al Pacino, moi je pensais que il allait avoir cette scène où en gros Al Pacino allait comprendre que De Niro va, ouais, le tuer et qu'il allait dire bon ok fais ce que t'as à faire vas-y et voilà, alors que là non, il le tue par surprise, c'est quand même assez dégueulasse quoi, et
un peu lâche, c'est ça, lâchement, lâche, ouais, la manière dont c'est montré. C'est vrai qu'il aurait pu s'étendre en faisant un plan
ralenti,
genre
en mode,
ouais, c'était mon frère et tout,
non,
en train de mourir
boum,
dans
boum,
ses bras. Là, c'est, voilà, bam, deux balles dans la nuque.
Mais en plus, c'est génial. Mais le moment où Pesci, justement, lui annonce, enfin, quand ils se prennent leur petit déjeuner et qu'il lui dit
il va falloir faire quelque chose.
Écoute, ouais, voilà, j'aurais préféré l'éviter, mais tu vas prendre l'avion, tu vas aller à Détroit. Il lui dit pas, tu vas les buter, mais tu le comprends tout de suite.
Dans les silences. Ouais.
Et c'est glaçant. Et puis tu vois que les deux, De Niro, ça, il a pas envie parce que c'est son pote. Et puis tu sens que Pesci, il a un rôle quand même
ça
intéressant.
Ça fait chier aussi. Ouais.
Tu sens que ça le fait chier aussi. Tu sens qu'il est.
Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, c'est le plus haut mafieux qu'on voit dans le film. Mais il dit, des fois, il dit l'ordre vient d'en haut.
Ouais.
Donc tu comprends que dans la mafia, il y a une hiérarchie que le Scorsese ne te montre jamais, et c'est carrément les mafieux high level quoi qui décident, et en gros quand ils ont décidé qu'un mec doit mourir, bah en fait le mec
c'est
doit
fini,
mourir,
ouais.
c'est pas négociable quoi.
On a quand même pris une bonne petite claque à ça.
Non, mais
c'est un grand moment de cinéma,
un
vraiment,
grand Scorsese, c'est assez fou, et on n'est pas les seuls à le penser, la presse est dithyrambique, hein. Je suis en train de regarder là un peu les revues de presse. Ça y va, hein. Et rien que sur par exemple Allociné, 4,5/5 en note presse, qui est extrêmement rare,
c'est très très rare,
c'est très très rare, c'est le film de la semaine sur Allociné, et 4,8 hein, selon les spectateurs, donc
ouais, ça c'est que Camping 2 qui l'a eu
un tel plébiscite
donc un énorme film qu'on vous encourage évidemment à voir, j'espère que vous avez Netflix parce que c'est malheureusement la seule manière de le voir.
Ouais, c'est un peu malheureux, mais au pire vous avez toujours Pirate Bay.
On n'a pas parlé des VFX, des effets spéciaux.
Oui.
Alors là-dessus, écoute, je trouve ça bien fait. Après, effectivement, il y a quand même un aspect un peu, ça fait faux, notamment. Enfin,
il y a la
faux.
Police.
T'as un peu quand même un effet Death Stranding, quoi. Genre le jeu vidéo très bien fait. Mais
en fait, plus il est jeune, plus c'est bizarre.
Ouais, c'est ça. Mais après,
dès qu'il a 40 ans, ça, ouais, va en fait. Quoi.
Ce qui gêne le plus, je trouve, c'est ce qui gêne. Vrai, c'est pas grave. Mais ce qui fait étrange, c'est quand tu as par exemple des plans en large. De Niro jeune où il va bastonner des mecs mais qu'il a un corps de vieux, donc,
ouais,
ça se voit dans ses mouvements, donc ça crée quand même un effet un peu étrange, mais comme dit Scorsese aussi dans cette petite pastille après le film sur Netflix, quand tu faisais des maquillages avant pour vieillir ou rajeunir des gens et qu'on voyait que c'était des maquillages mais qu'on l'acceptait, est-ce que c'était une convention, est-ce que là c'est vraiment différent en fait,
c'était un peu le cas ce qu'il faisait avec Ray Liotta dans Les Affranchis,
ouais.
Alors Ray Liotta était interprété par un très jeune quand il devait jouer le jeune dans Les Affranchis, mais par contre il lui avait mis des lentilles bleues à ce très jeune acteur qui jouait Ray Liotta, parce que Ray Liotta a les yeux bleus. C'est ce qu'il fait là avec De Niro. Je crois pas que De Niro ait les yeux bleus.
Je crois pas qu'il ait les yeux bleus.
Non,
ouais,
il a pas les yeux bleus, De Niro.
Après, peut-être que Frank Sheeran a les
yeux
bleus.
Oui, c'est ça, je pense,
ouais,
que c'est, ouais, ça. C'est juste par un souci historique et de reconstitution qui lui a mis les yeux bleus. Mais ça passe déjà mieux que dans Les Affranchis. C'est vrai qu'il y a un côté un peu uncanny valley sur certains plans, notamment quand il y a des. Ceux qui sont, genre, il va y avoir une actrice ou un comédien qui, eux, n'ont pas été passés par la case filtre, qui sont avec De Niro ou Pesci.
Ouais.
Je pense notamment à celui qui découpe les poulets, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
J'ai oublié son nom
aussi.
C'est pas grave, il s'appelle Tony.
Bobby Cannavale.
Ou même avec.
C'est ça, Bobby Cannavale, je crois.
Oui. Bobby Uncannavale.
Non, Cannavale, ça va être.
Non, ou bien quand il y a Harvey Keitel avec Pesci et De Niro rajeuni. Ça,
ouais,
crée un peu un déséquilibre, ça fait un peu tâche. Mais
après, t'as Keitel vieilli, ça dure pas très longtemps d'ailleurs.
Non, ouais, on le voit pas beaucoup Keitel d'ailleurs.
Tu
mais,
vois, ouais,
mais au final, ça passe. Enfin, je veux dire, tu t'y habitues, c'est un peu comme tes yeux s'habituent. Tu sais, quand tu vas voir par exemple Spider-Man, le dernier, New,
ouais,
Generation, tu vas voir 3 minutes, tu te dis, waouh, la fréquence d'image,
ouais,
c'est,
ouais,
pas la même et tout, mais finalement, ça va s'habituer. Bah, j'ai eu un peu cette impression.
Ouais,
c'est ça.
Au début, ça fait un peu drôle.
Et c'est quand même bien foutu.
Mais après, t'as quand même un truc rigolo, mais ça aussi, Scorsese, il en parlait, c'est que, en fait, la première scène qu'ils ont tournée avec Pacino, c'est la scène où il apprend l'élection de Kennedy, tu sais, avec sa famille, là, tu sais, regarde la télé, et tu sais, il se lève de son siège, et puis il est vénère, et puis il se casse. Et en gros, il racontait que, en fait, Al Pacino, il s'est levé, il est parti, et que t'as le caméraman qui est venu voir Scorsese en disant Martin, il y a un problème, là, il s'est levé quand un mec a 70 ans, quoi. Alors qu'à cette époque-là, bah, il est censé avoir 49 ans, tu vois.
Ah.
Et du coup, Martine lui fait, bah, va lui dire, toi, parce que moi, je vais pas lui dire à Al Pacino.
Vas-y, va lui dire.
Ouais, faut hein.
Et du coup, ils sont allés lui dire, apparemment, il leur fait plein de fois en disant, non, là, t'as 64 ans et tout. Bah, c'est marrant, quoi. C'est une petite anecdote rigolote.
Du coup, voilà, il a été soutenu par des câbles. Oui, ouais. Ensuite, numériquement,
c'est totalement
enlevé.
Invisible, là, d'ailleurs.
Du coup, bah, après, Al Pacino, en fait, comme c'est un acteur qui est très bon, mais qui est aussi très pro, tu sais pas une diva, le mec. Donc,
oui, je pense que tu lui dis un truc, il va en tenir.
Tu lui dis un truc, et puis surtout quand t'as un bon réal, je pense qu'il y a aussi du respect aussi comme ça qui s'installe dans les gros, les parrains du milieu un peu, hein, parce que ça reste des parrains du milieu, les italo-américains d'Hollywood, quoi.
Ouais.
Yes.
Grosse œuvre testamentaire, hein, si on peut dire ça comme ça.
De ce genre-là, ouais, je sais pas s'il refera
de Scorsese,
d'autres films mafieux.
Sublimement mise en scène, le terme chef-d'œuvre reste à discuter, mais en tout cas pour moi c'est le cas. J'ai vu un chef-d'œuvre.
En tout cas, c'est un grand film.
En attendant son prochain film, est-ce que vous savez un peu ce que c'est?
C'est un film avec Leonardo DiCaprio.
Ouais.
Bah, t'as une chance sur deux. Hein,
c'est lui ou De Niro, donc bon.
Leonardo DiCaprio.
Vivement les deux.
Ah, ce serait ouf.
Ça serait bientôt, peut-être.
Ah ouais, ouais.
Mais ouais, donc c'est un film sur des meurtres de la tribu indienne des. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Alors voilà, ça s'appelle Killers of the Flower Moon, qui va raconter l'histoire vraie de meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage, en Oklahoma, dans les années 1920. Donc voilà.
Encore film d'époque, encore du budget.
Voilà, il y a peut-être un film à la. There Will Be Blood, parce que ce sera sous fond aussi de. Tu sais, de.
Conquête de l'Ouest, voilà, et tout, enfin de pétrole.
Pétrole et compagnie. Donc ça va être encore aussi un bon pan des histoires.
Un film de 4h55.
Ce sera un film de 6
jours.
Sur
Amazon Prime.
En tout cas, j'espère qu'il sortira au ciné celui-là. Mais on peut remercier Netflix, mine de rien, de,
d'avoir
offert ce budget et qui a permis un peu à Scorsese de se détacher.
Et juste dire aussi, parce qu'il y a un gros débat autour de la longueur du film, notamment sur Twitter et tout, est-ce qu'il faut le regarder en une fois, en quatre fois? Il y a même un mec qui a fait un découpage comme si c'était une série.
Ridicule. Ridicule.
Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Que 3h30, oui, bah merci à Netflix, parce que faire exister un film de 3h30, c'est cool, et c'est nécessaire qu'il dure 3h30, ouais. Parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui vieillit. Et la fin n'a pas le même impact du tout si tu le regardes découpé en 8000 fois. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est un film à vivre comme une expérience longue, et ça a du sens que ce soit long. C'est pas juste qu'il n'a pas voulu couper des trucs ou quoi.
Ouais. Donc, on vous encourage à aller regarder The Irishman si vous êtes en recherche de très bons films. Celui-là prend les 5 étoiles de Fetabea, clairement.
Ouais.
Une très bonne expérience de film de mafieux si vous aimez ça. Mais on peut recommander ce film aussi à d'autres personnes, plus précisément.
Oui. Oui.
Ah ouais, avec notre rubrique, Kevin.
Bah, à qui le rococo?
À qui le rococo?
À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui?
À qui le rococo? À qui le recommandez-vous ce film? C'est notre rubrique qui permet, avec humour, de recommander ce film à un panel trié sur le volet.
Oui.
Kevin, toi, tu recommanderais ce film?
Bah moi, je le recommande vivement aux patrons bâtiments, parce que si jamais quelqu'un les appelle en disant j'ai entendu vous peigner des maisons, c'est peut-être pas ce à quoi ils s'attendent.
Attention, hein, ne prenez pas ce coup de fil. Ça peut changer votre vie.
J'ai des maisons à peindre et tout, ils m'ont filé un 9 mm silencieux, je ne comprends pas.
Un bidon d'essence à la dynamite, j'ai pas compris.
Toi, Clément, à qui tu recommandes?
Moi, c'est pas une blague, c'est ceux qui pensent que 3h30 c'est long, et ben pas avec Martine. Voilà.
Eh oui, eh
Martine,
oui,
à la plage, bien sûr. Hein. Je parle pas du film. Hein.
T'as vraiment acquis le rococo?
Alors, moi je rococo ce film à tous les bons Irlandais qui se respectent, car même dans la mort, il est possible de fêter la Saint-Patrick. Voilà.
Oh, un film très Saint-Patrick.
Voilà, pour faire référence à une scène de fin qui est extrêmement touchante. Donc je vais pas le dire, je vais garder la chose pour moi, mais il est possible d'être irlandais même dans la mort.
Même avec Action Bronson.
Dans votre cercueil, oui, une scène avec Action Bronson. C'est toi qui nous l'as fait remarquer. Je ne savais pas qui c'était.
Tu ne connaissais pas son visage.
Non, effectivement. Et ben voilà. Je pense que sur ces belles paroles, sur ces belles recommandations, il est temps
de se dire au revoir.
Effectivement.
On n'est pas bien.
Si.
Paisible. À la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà pour ce qui était de notre épisode numéro 28 avec la BA de la famille Adams, qui ont l'air cyniquement délicieux encore même après être passé par la case animation. On va se précipiter voir ça avant la grève. avant l'apocalypse de la RATP, la SNCF,
de tout.
Le jour où Uber va se faire des couilles en or.
Ouais, ils vont faire grève aussi peut-être.
Et puis bah, un très beau match retour sur cette belle œuvre qu'est The Irishman, avec la famille Scorsese au complet. C'était génial et je crois que moi je vais le refaire.
Ouais.
À 3h30, moi ça me fait pas peur. Hein. J'y vais les yeux fermés. Je vais me refaire ça bien comme il faut.
Au calme.
Pour vous teaser un peu ce dont nous allons parler la semaine prochaine, et ben encore une fois, on va aller faire un tour du côté d'un grand réalisateur américain. Controversé, plus ou moins, parce que je sais que ça fait débat au sein même de Fetabella. Ça va être intéressant de.
J'aime pas ce qu'il fait.
T'aimes pas ce qu'il fait, ce, on va ce dire, fait. Ce
c'est poète. Mon réalisateur préféré.
Voilà, ce poète, si on peut dire ça, c'est un peu le poète du cinéma.
Ouais.
Car ses œuvres ressemblent à d'énormes poèmes. Il avait pris la palme pour The Tree of Life. Et oui, c'est le prochain film de Malik Terrence, de son prénom, que nous allons nous empresser de voir, nous, après avoir décortiqué sa BA dans notre épisode 29. Donc Terrence Malick va-t-il réunifier Feta BA ou au contraire la diviser
créer,
à jamais
créer
diviser
débat.
Comme la Reine des Neiges là. Un film de la même ampleur.
On a besoin d'apaisement, Terrence, donc voilà, mets-nous d'accord, s'il
donc,
te plaît.
C'était un film qui avait été à Cannes et qui avait
marqué beaucoup de monde, mais qui n'a pas eu de prix.
Voilà, mais on pensait qu'il aurait pu l'avoir, et puis bah, Bong Joon-ho a débarqué avec son Parasite et a remis les choses au clair. Donc nous, on a très hâte. Je sais que Clément, comme moi, est très très
moi,
fan.
Je boue depuis des mois là.
Très fan de Terrence Malick. Moi, j'adore Terrence Malick.
Moi, j'ai hâte aussi parce que j'ai déjà vu la BA. Moi, j'ai déjà vu.
On fait l'épisode maintenant. Alors, la BA commence par un champ de blé.
Et honnêtement, c'est un pissenlit. C'est la première BA d'un de ces films que je vois et où ça me donne envie d'y aller.
Une vie cachée, donc on n'a pas dit le titre.
Voilà.
Non, voilà, hâte de voir ça et puis on verra qui est la team Malick et qui ne l'est pas dans Feta BA la semaine prochaine. En attendant, si vous nous découvrez, vous pouvez nous redécouvrir sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast, à nommer pêle-mêle et pas en entier Spotify, Deezer, iTunes, mettez-nous une petite note avec un petit mot, ça nous fait toujours plaisir.
Oui.
Vous pouvez aussi venir discuter avec nous et découvrir un peu le monde de Feta BA sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook.
Écrivez-nous.
Et ben voilà, c'était couille, hein, trois hommes.
C'était cool, on était entre cool. Et
c'était couille d'être entre cool. Donc trois hommes, cinq couilles, voilà. Je me demande si je vais pas renommer cet épisode comme ça, entre parenthèses. Trois hommes, cinq couilles. Voilà. L'épisode.
Mais non,
couilles.
Mais vous nous manquez, les filles.
C'était l'épisode couille.
Je voulais dire, tu nous manques.
Revenez, les filles. C'est vrai que c'est quand même mieux.
C'est mieux
quand on est mixte.
Ah. Ouais, mais puis c'est mieux quand elles sont là parce qu'elles sont quand même un peu plus intelligentes.
Elles sont plus intelligentes.
Ouais. Elles nous recadrent. On aurait déjà eu Clémence qui nous aurait dit tu vas la fermer ta gueule, tu vas dire au revoir aux gens ou quoi.
Voilà, on va le faire. Allez, salut les amis.
Salut les amis.
Et puis à la prochaine sur TFou.
À la semaine prochaine.
Ouais, pour des nouvelles aventures chocolatées.
Feta BA, le podcast. Salut tout le monde.
Salut.
Shoshana!
Bon ben, c'est
ben voilà.
Ah, trois hommes, cinq couilles.
Allez, voilà. C'est fini.
Pas de chipotage. Pas de pinaillage.